bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale en format thématique. En ce 31 octobre et à l'aube de la Toussaint, alors que le mois de novembre, les jours plus courts et le temps plus gris se pointent le nez, eh bien voici un petit épisode, donc plus court, sur les origines des fêtes d'Halloween et certaines créatures qu'on associe à la pénombre, à la nuit, comme les sorcières et les loups-garous. En effet, comme plusieurs fêtes anciennes, il faut dire que l'Halloween est lié au calendrier agricole dans des régions du monde où, lorsque le mois de novembre arrive, bien le froid, la noirceur domine, jusqu'à l'espoir qu'apporte le solstice d'hiver qui lui annonce le retour des jours plus longs, de la chaleur et surtout des semailles. Et donc, en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles en particulier, il y a environ 2000 ans, on a beaucoup de difficultés en fait à statuer quand tout ça commence par manque de sources, mais on sait qu'on veut à l'époque célébrer la fin des moissons et surtout protéger les récoltes pour l'hiver à venir. Et il ne faut donc pas que des créatures et des mauvais esprits profitent des nuits plus longues pour venir gâcher les précieuses récoltes. Et la meilleure arme contre le mal reste donc la lumière et le feu. Et dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on est à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et les anciennes populations celtiques croyaient qu'une porte s'ouvrait entre le monde des morts et celui des vivants et que cette nuit était particulièrement dangereuse pour que les mauvais esprits, des fois même les esprits aussi de gens qu'on aimait qui n'étaient pas nécessairement méchants, mais surtout les mauvais esprits viennent nuire aux efforts des paysans et nuire surtout à la survie de certaines familles pendant l'hiver. Et ce sont donc les origines aussi des fêtes dites de la Samhain, qu'on écrit S-A-M-H-I-N, mais il faut vraiment prononcer Samhain, qui était le festival de la fin d'année agricole et on pourrait dire la fin de l'année point, en fait, pour les populations celtiques, et donc le début de la suivante dans les anciens calendriers. Et Samhain voulait tout simplement dire fin de l'été. Et c'est le moment où on finissait de ranger, stocker les grains, les fruits, les légumes, on rentre les bêtes pour l'hiver, et une fois que le travail est terminé, on organise de grandes fêtes, des banquets, on sacrifie quelques bêtes, et tout ça pour célébrer l'abondance et remercier la nature de ses cadeaux. Et pour faire fuir les mauvais esprits en cette nuit bien particulière, on allume de grands feux de joie et les gens circulent avec des lampes à l'huile, des bougies ou des lanternes une fois la noirceur bien établie. Et donc, graduellement, et c'est là que c'est difficile à dater par manque de sources, je tiens à le dire, on en est aussi venu, plus particulièrement en Irlande cette fois-ci, à se couvrir le visage de cendres et éventuellement à se costumer avec des atours effrayants dans le but de terrifier les esprits et de s'assurer qu'ils retournent dans leur tombe et sous la terre. Et voilà donc les origines de ce qui va devenir les célébrations dites de l'Halloween, qui vient de All Hallows Eve. Et ça, ce terme-là, on va le voir plus lorsque l'Irlande se christianise graduellement à partir du 5e siècle et que l'Église catholique, cherche à intégrer, comme elle l'a fait souvent, les anciennes pratiques rituelles à son calendrier religieux. Et là, de ces anciennes célébrations vont émerger les fêtes de la Toussaint, le 1er novembre, qui célèbre davantage les saints de l'Église catholique. Encore une fois, les sources nous manquent, et ça je tiens que vous allez m'entendre le dire souvent aujourd'hui, nous manquent pour bien comprendre les origines de certaines traditions, mais on sait qu'avec la christianisation de l'Halloween et l'importance de la Toussaint, serait née la tradition du passage de gens pauvres, en fait, aux portes pour avoir ce qu'on appelle un gâteau de l'âme en échange de prières. Et en Angleterre en particulier, lentement mais sûrement va s'ajouter le port de masques, surtout celui d'un certain Guy Fawkes, qui est associé à la célèbre conspiration des poudres du 5 novembre. Et donc, il y a des gens qui, à un moment donné, en Angleterre surtout, pour honorer sa mémoire, vont porter un masque le symbolisant pour passer aux portes en demandant des gâteaux, de l'argent et des sucreries. Ce serait donc une partie, en fait, des traditions qui seront importées éventuellement du côté de l'Amérique du Nord. Mais il ne faut pas penser que c'était partout pareil dans tous les villages en Irlande, en Écosse et en Angleterre, nécessairement, surtout en ce qui concerne la question des costumes en particulier ou même du passage aux portes. Mais là, on peut se demander aussi d'où vient la tradition de la citrouille allumée. Et en Irlande, en Écosse, la nuit de la Samhain, on va utiliser des légumes racines, surtout le navet, pour créer des visages terrifiants et en faire des lanternes pour éclairer notre chemin. Et lorsque les immigrants britanniques et surtout irlandais arrivent en Amérique du Nord, ils importent avec eux leurs traditions et comme les courges, notamment les citrouilles, sont abondantes, elles vont en venir à remplacer le navet. Mais la lanterne est aussi associée à un vieux mythe irlandais qui a plusieurs versions, dont voici un très court résumé, dans un village d'Irlande. Un vieux cordonnier, des fois, il a d'autres fonctions aussi, d'autres métiers. Mais allons avec un vieux cordonnier. Et son surnom, c'est Stingy Jack. C'est un ivrogne malin qui aime bien escroquer les gens, leur jouer des tours. Et il aurait réussi le plus grand des coups. Il serait parvenu à jouer un tour au diable qui vraiment en colère, lui aurait ainsi interdit l'entrée de l'enfer. Mais comme il ne vivait pas non plus entrer au paradis, ben après sa mort, Jack est condamné à arpenter le monde avec une petite lanterne faite d'un navet et d'une braise rouge de l'enfer pour éclairer son chemin. Et donc, c'est cette vieille légende, selon certains historiens irlandais, qui pourrait... qui donne naissance, en effet, à ce qu'on appelle Jack la Lanterne. Mais d'où vient ce mythe, en fait? Il y a certains historiens irlandais qui pensent que ce serait né de signalements de feux follets et de gaz des marais qui brillaient souvent la nuit. Donc, comment les expliquer? Ce serait Jack la Lanterne qui passe comme ça avec sa braise dans son navet. Et avec la christianisation, donc, il y a des nouvelles créatures de la nuit, davantage associées au diable, qui vont en venir à être affiliées au fil du temps aux célébrations de l'Halloween. Notamment, en fait, aux États-Unis, quand les fêtes vont se développer, que l'imagerie va peut-être être un petit peu plus abondante, surtout avec la commercialisation éventuellement. Les sorcières, les vampires, les loups-garous, ont notamment été ajoutés au symbole de cette fête et surtout aux forces maléfiques à combattre. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, parce que l'Halloween vient avec une peur des maléfices. Et en Irlande, en Écosse, on laissait d'ailleurs du vin et de la nourriture à l'extérieur sur les porches des maisons pour être sûr que les mauvais esprits n'entrent pas. Donc, on les nourrissait à l'extérieur. Et c'est comme ça que, graduellement, avec la christianisation, donc, les sorcières vont être associées à ce mal qui rôde dans la nuit de l'Halloween parce qu'elles sont liées directement aux maléfices. Et donc, elles jettent des sorts et en jetant des sorts, elles peuvent endommager les récoltes. Et c'est comme ça que l'association aussi avec la christianisation de la sorcière avec le diable, elle devient en fait le porte-étendard parfait pour être un symbole de l'Halloween parce que, bon, il faut quand même dire que sorcellerie, magie noire, ça remonte à très loin dans l'histoire, là. Autant en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Mais c'est vraiment l'Europe médiévale qui va faire cette espèce de liaison entre la sorcière, celle qui jette des sorts, et sa relation avec le diable. Et c'est comme ça que l'Église aussi en est venue à statuer que la faculté de pratiquer ce qu'on appelle la magie, surtout les anciens rituels païens aussi, ça vient pas tant de la sorcière elle-même, mais de son pacte avec le diable. Et c'est comme ça que graduellement, on va l'associer aussi au balai qui lui permet de voler grâce à la magie ou peut-être même à une mixture. Et elle peut donc, ce balai va lui-même lui conférer un pouvoir magique. Alors, c'est vraiment une des raisons pour laquelle, lentement mais sûrement, à partir du Moyen-Âge, la sorcière va prendre sa place dans les fêtes d'Halloween. Parce que la nuit, c'est la complice des créatures maléfiques. Et une des plus anciennes, c'est aussi les vampires. Pourquoi? Les vampires, en fait, ça remonte aussi à l'Antiquité. Hein. Dans les contes orientaux, on a des monstres qui se nourrissent de sang, parce que le sang, c'est le symbole à la fois de la vie, de la mort. Et on va aussi penser qu'il y a des créatures qui aspirent le souffle de vie. Et c'est comme ça qu'on va avoir des mythes en Roumanie, en Hongrie, en Pologne aussi, où on va chercher à identifier le mal. Et essayer d'expliquer des fois pourquoi il y a certains corps qui ne se décomposent pas quand on ouvre des tombeaux dans les cimetières. Et là, on va commencer à les appeler les damnés. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va commencer dans la culture populaire à développer, en fait, l'idée des morts vivants, l'idée du vampire. Et même Voltaire en parle dans son dictionnaire philosophique. Vous avez des poètes comme Prosper Mérimée, Baudelaire ou même Laure Biron qui vont même contribuer à romantiser ces créatures-là avant même que Bram Stoker le vienne cristalliser, je vous dirais, le mythe avec Dracula. Mais ce qu'on voit émerger quand même, c'est que les vampires, l'idée du vampire qui aspire la vie, aspire le sang, ce sont des créatures qui sont sensibles à la lumière, donc ce sont des créatures de l'ombre. On les associe à la nuit pour leur meurtre aussi, et c'est la raison pour laquelle ils peuvent se changer en chauve-souris ou en créatures nocturnes effrayantes. Et ça, ça répond en fait à un questionnement important à l'époque qui est, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Et dans les villes, les villages qui sont affectés, des fois par des morts inexplicables ou des disparitions, mais surtout des maladies contagieuses associées au sang, comme la tuberculose, la recherche d'explications amène, en fait, le vampire. Parce que si le corps n'est pas décomposé rapidement, ça en serait une preuve. C'est pour ça qu'on va sceller les corps dans des cercueils, là, vraiment, avec des pieux et tout ça. Mais c'est sûr que quand les cercueils étaient trop bien scellés, des fois, la composition va être retardée, surtout s'il fait frais ou froid, en fait, dans les régions où on avait inhumé des gens. Mais d'avoir des corps qui se décomposaient lentement, on croyait que c'était une confirmation, en fait, qu'on avait un mort vivant. Et là, on va avoir des rituels pour empêcher leur retour. Et quand on va avoir des maladies comme ça qui se transmettent, surtout comme la tuberculose, ben, on va ouvrir les tombeaux des gens qui en sont morts. Et là, on va transpercer le torse avec des pieux métalliques, ou on va leur mettre des briques ou des pierres dans la bouche. On va leur retirer leur canine dans le but qu'ils ne reviennent pas hanter les vivants. Alors oui, on trouve plusieurs tombes dites de vampires un petit peu partout. On en a même trouvé aux États-Unis, au Connecticut, dans certains cimetières, on a eu des corps démembrés, des têtes coupées, des os placés en croix. Et c'est un peu de là que Bram Stoker va prendre une bonne partie là, de ses croyances et va créer, en fait, son conte Dracula, qui est l'ultime symbole du vampire. Et dans les autres créatures de la nuit, bien, on a aussi le loup-garou, ce qu'on appelle le lycanthrope, l'homme-loup, qui, lui, est la créature hybride, hein, qui vient associer la crainte des animaux au mal, parce qu'il y a certains animaux qui nous font peur, il y a certains animaux qui peuvent nous attaquer. Et alors là, on va inventer le loup-garou, qui est aussi une croyance qui s'est construite beaucoup plus au Moyen-Âge, où quand il y a effectivement des phénomènes inexpliqués, bien, on va tout de suite aller vers l'origine démoniaque ou surnaturelle. Mais le loup-garou est inspiré en fait de plusieurs anciens mythes, notamment grecs, où le loup est une créature vicieuse qui attaque, il attaque en meute. Et l'homme loup, lui, c'est une créature qui attaque seule, donc il est un peu différent de la meute de loup. Et avant même le mythe d'un homme qui va se changer en loup avant la pleine lune, ben c'est important de comprendre que le loup-garou est avant tout un homme. Donc c'est ça son association peut-être plus avec le mal, c'est que là on a un homme qui a l'air d'être comme les autres, mais qui en fait est une créature maléfique, il est un loup-garou, et c'est vraiment la pleine lune qui est très mystérieuse qu'il va se dévoiler. Et c'est pour ça qu'on parlait souvent du loup-garou comme étant l'homme à l'envers, les poils à l'intérieur vont ressortir à l'extérieur. Alors souvent, ces hommes-là, dans leur quotidien, avaient très peu de poils parce que ce poil était à l'intérieur et c'est lors de la pleine lune que la créature maléfique allait se dévoiler. Et lorsque c'est la pleine lune, ben là, l'homme devient une bête incapable de contrôler sa colère, ses instincts de tueur. Et c'est renforcé par la nouvelle lune d'hiver. Et ça, ça existe même dans le folklore québécois parce que si vous connaissez Honoré Beaugrand, il a un conte en fait sur des navigateurs qui passent près de Trois-Rivières, qui aurait rencontré une meute de loups-garous. Donc lui, il a vraiment tout mélangé, une meute et deux loups-garous, alors que techniquement, ils devraient être séparés le jour de la Toussaint, où est-ce qu'ils dansent autour d'un feu en découpant un corps humain, et ils vont utiliser des fusils chargés d'un chapelet pour disperser la meute. Alors je vous invite à aller lire là, ce conte d'Honoré Beaugrand. Alors voilà pour un petit tour d'horizon rapide des origines des fêtes actuelles de l'Halloween, qui au fil du temps, ben, en sont venues être associées aux enfants. Maintenant, aujourd'hui, on les associe aussi beaucoup à ça, au plaisir du déguisement et surtout à la quête des précieuses friandises. Pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, je vous recommande entre autres Trick or Treat, History of Halloween, par Lisa Morton, et ça, c'est paru chez Reaction Books. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire, en archéologie, sur les réseaux sociaux, ben, j'ai toujours mes deux comptes Facebook, Evelyne Ferron Historienne et Historiophile. Je fais aussi des actualités quotidiennes sur mon compte Blue Sky, et je m'amuse avec les publications historiques en stories sur mon compte Instagram. Si vous appréciez ces petits cours d'histoire, ben, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes pour que d'autres personnes les découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours.